France Culture.
Le journal vous est présenté par Valentin Grille.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Une réforme du travail historique et destructrice. Nous serons en Belgique dans ce journal à la rencontre de travailleurs au chômage qui pourraient perdre leurs indemnités. Retour également sur la manifestation de l'extrême droite hier à Lyon. Malgré l'hommage à Quentin Derenck, on y a vu et entendu des insultes racistes et des saluts nazis. Enfin, à l'occasion du Salon de l'agriculture, focus sur les travailleurs immigrés qui font tourner la France avec l'invité de ce journal, Ibrahima Diallo, sociologue à l'Institut sénégalais des recherches agricoles. La Belgique face à un véritable Big Bang social, une réforme historique du marché du travail, selon le média De Morgen. La coalition de droite a mis en place une réforme de l'assurance chômage et d'ici l'été, ils seront près de 200 000 à perdre la totalité de leurs indemnités. Ses défenseurs se félicitent qu'un tiers des chômeurs de longue durée ont déjà retrouvé un contrat. Mais la Cour des comptes belge alerte, une bonne partie de ces travailleurs sans emploi vont demander des minima sociaux dont la facture pourrait exploser. Et surtout, une grande partie menace désormais de se retrouver sans aucune ressource. Les acteurs sociaux du pays redoutent une catastrophe humaine et sociale, Elsa Lossoirne.
Un peu partout dans Bruxelles, des réunions d'information d'urgence ont été mises en place pour accueillir et orienter les dizaines de milliers de personnes exclues du chômage.
Bienvenue à toutes et à tous. Et donc voilà le programme. Donc, on va vous expliquer le CPS, c'est quoi ? Qu'est-ce que le droit à l'intégration sociale ?
Une trentaine de personnes se pressent dans la petite salle de l'un des centres publics d'action sociale de Bruxelles. Parmi elles, une majorité de personnes licenciées en fin de carrière, avec peu de perspectives de retrouver un emploi. C'est notamment le cas d'Adèle, au chômage depuis plus de 10 ans.
Malgré que j'ai fait le nécessaire, j'ai mes diplômes, j'ai mes compétences, j'ai des expériences, j'ai des stages, mais... Le problème, c'est que mon âge, il est devenu vraiment un handicap.
Cette réforme a un goût de révolution dans le pays, car le chômage était jusqu'ici illimité dans le temps, tandis que l'accès au revenu social minimal est extrêmement strict. Résultat, le chômage se substituait dans les faits à d'autres aides sociales. Il permettait par exemple à des aidants de s'occuper de leurs proches. Pour gérer les flux et la détresse des usagers, des dizaines d'assistants sociaux comme Kim ont dû être embauchés en urgence.
Il y a beaucoup de peur, d'interrogations de leur part. Et donc ces personnes-là, oui, elles ont vraiment peur de rien percevoir au final. C'est vraiment de l'interrogation et il y a un climat un peu anxiogène.
Le gouvernement mise sur le retour au travail d'un tiers des exclus du chômage, incités par la perte de revenus. Une illusion pour les acteurs du secteur social qui dénoncent une réforme qui ne tient pas compte des réalités du marché du travail et risque d'entraîner dans la pauvreté des dizaines de milliers de personnes ainsi que leurs familles.
Reportage d'Elsa Lossoirn pour France Culture. C'est un entraînement d'une ampleur exceptionnelle. Pendant 3 mois jusqu'à la fin avril, 12 500 soldats de l'armée de terre, de mer et de l'air se préparent à la guerre à travers toute la France. Orion 26, c'est le nom de l'exercice qui met en scène un pays agresseur venu de l'Est et un allié que Paris décide de défendre en prenant la tête d'une coalition internationale. Scénario fictif, mais non sans rappeler des circonstances géopolitiques actuelles. C'est l'une des pièces maîtresses du dispositif de ces derniers jours sur la côte atlantique, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre qui a jeté l'ancre à Saint-Nazaire. Isabelle Labéry a pu monter à bord, visite guidée.
199 mètres de long et une hauteur vertigineuse.
La passerelle correspond au premier étage de la tour Eiffel.
Son ponton peut accueillir 16 hélicoptères et dans sa soute, des véhicules amphibies capables de faire débarquer des chars Leclerc.
On va vous faire une présentation, je vous laisse avancer.
Mais le Tonnerre est aussi un navire hôpital.
Toute l'équipe médicale va s'organiser pour cet afflux massif de blessés. Donc les plus graves vont arriver ici.
Sur les lits des figurants, l'exercice est le plus réaliste possible.
Nous avons 2 blocs opératoires, radiologie conventionnelle, échographie, scanner.
Le médecin en chef, Freddy Amar.
Donc tous les médecins militaires sont formés à la chirurgie de guerre.
Enfin, le Tonnerre héberge l'état-major de l'opération.
Ce que je vous demanderai, c'est d'éteindre vos téléphones portables, tout simplement parce que c'est des endroits classifiés.
Les armées françaises s'entraînent à travailler avec leurs alliés.
Il y a plus de 7 nationalités avec des officiers qui viennent d'Australie, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie, de Grèce et même du Brésil.
Bien sûr que c'est nécessaire. De toute façon, s'entraîner, ça rend meilleur.
Le capitaine de corvette, Barthélémy.
Accessoirement, aujourd'hui, on voit bien que le monde est secoué, remué. Donc, on a fortement intérêt à s'y préparer.
Orion 26 permet à la France de faire savoir à ses adversaires qu'elle est prête à une guerre de haute intensité.
Isabelle Labéry avec les moyens techniques de Maëlle Larfassor. Des insultes homophobes et racistes, des saluts nazis, aussi très vite corrigés par un service d'ordre qui rappelle la présence des caméras. À Lyon, hier, dans le cortège rendant hommage au militant identitaire Quentin Derenque, l'extrême droite ne s'en est pas tenue à la simple commémoration. Des multiples manifestants étaient masqués, des lunettes noires vissées sur le nez pour dissimuler leur visage. Et il y a donc ces propos et gestes, moins des débordements que la face visible de pratiques et d'opinions extrêmes que les organisateurs avaient tenté de refouler le temps d'un défilé placé sous haute surveillance médiatique. À rebours de l'évidence de toutes les images, la militante anti-avortement, Aliette Espieux, à l'origine de la manifestation, assurait encore hier qu'il n'y avait eu aucun salut nazi. La préfecture du Rhône a pourtant saisi dans la soirée la justice pour des gestes et propos répréhensibles. Selon Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, interdire certains drapeaux et demander de cacher des tatouages n'était déjà pas anodin. Il s'exprime auprès de Rachel Escolano.
Sitôt qu'il existe des consignes visant à cacher des tatouages ou à ne pas arborer d'emblème, autre en tout cas que le drapeau tricolore, c'est qu'il y a chez les organisateurs la crainte de ce qui pourrait être montré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de consignes d'interdire quoi que ce soit lorsqu'il n'y a pas de risque qu'un tatouage compromettant ou une banderole qui le serait tout autant soit montrée par les manifestants. Ça prouve donc qu'il y avait quelque chose à cacher. Dans cette mouvance de 3500 personnes environ qui a défilé, il existe des éléments très radicaux. Et c'est ça qui fait la particularité des mobilisations lyonnaises, d'ailleurs. C'est le fait que, singulièrement depuis les dissolutions qui ont frappé toutes les mouvances lyonnaises et au-delà, chaque groupe n'est plus dans son couloir. Tout le monde fréquente à peu près tout le monde dans un spectre très large, qui va de certains catholiques traditionnalistes davantage mus par le sentiment d'identité que par la foi, jusqu'à des gens qui sont à la limite du néo-nazisme.
Et ajoutons qu'à midi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé vouloir convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner. Il avait commenté l'agression de Quentin Derenque et dénoncé l'extrémisme violent de gauche. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame, explique le locataire du Quai d'Orsay. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes hier à Paris avec la visite d'Emmanuel Macron. Et sans aucune vache, la faute à l'épizootie de dermatose nodulaire. Les syndicats agricoles ont été entendus par l'Élysée, à l'exception de la Confédération paysanne qui n'a pas souhaité s'entretenir avec le président. La coordination rurale, elle, projette de nouvelles actions non violentes durant le salon pour sensibiliser aux problèmes du monde agricole. Dans ce journal, un pas de côté pour explorer le fonctionnement du monde agricole et ses travailleurs, notamment ses travailleurs immigrés et sans papier, avec notre invité Ibrahima Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche en sociologie à l'Institut sénégalais de recherche agricole et membre du bureau d'analyse macroéconomique à Dakar. Pour commencer, en matière de proportion, que représentent les travailleurs immigrés dans la main-d'œuvre agricole française, et peut-on voir une dynamique d'augmentation ?
Oui. Depuis 1980, le nombre de salariés agricoles n'a cessé d'augmenter. En 2024, ils sont estimés à 250 000 individus. Ils représentent aujourd'hui la moitié des travailleurs agricoles. Et une part importante de ces travailleurs agricoles est constituée de migrants qui sont originaires de l'Europe de l'Est, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Et moi, je me suis beaucoup plus intéressé à cette dernière catégorie de saisonniers. Voilà, des migrants issus d'Afrique subsaharienne.
Comment, du coup, ces migrants finissent par être embauchés par des entreprises ? Est-ce qu'ils sont saisonniers ? Est-ce qu'ils enchaînent plusieurs travaux dans l'année ? Comment est-ce qu'il y a des réseaux pour les recruter également ? Comment tout ça se fonctionne pour leur recrutement ?
Alors, pour le recrutement, beaucoup d'exploitants font appel, recours à différents types catégorie d'intermédiaires. Du coup, ça peut dépendre aussi des terrains ou bien des types de travaux agricoles. Par exemple, si je prends le cas des vendanges en Champagne, les viticulteurs font appel à des intermédiaires ou bien à des intermédiaires professionnels qu'on pourrait appeler des prestataires de services. Et ces prestataires de services vont fixer, par exemple, le prix du kilo de raisin entre 20 et 22 centimes. Donc, une fois la vendance effectuée et après avoir été payé par le vigneron, il verse ensuite au saisonnier une rémunération qui est comprise entre 16 et 18 centimes le kilo. Dans certaines régions, par exemple, dans le Poitou, pour le cas du ramassage de melons, où le recrutement se fait, où le recrutement suit une démarche bureaucratique, en fait. Ça veut dire que les saisonniers vont, les candidats vont télécharger des dossiers qui sont mis en ligne, puis les complètent et les envoient par courrier postal ou bien par mail aux entreprises molonnières. Lorsqu'ils sont retenus, donc ce sont les entreprises qui vont organiser le recrutement. Dans ce cas-là, beaucoup de postulants subsahariens disent que envoyer par exemple son dossier ne suffit pas. Voilà, c'est une expression qui revient tout le temps. Envoyer son dossier ne suffit pas. Il faudra s'appuyer sur des réseaux. Il faut s'appuyer sur des intermédiaires, des relais. Et ces intermédiaires-là sont souvent des anciens ou bien des salariés permanents. Donc, ces intermédiaires vont intervenir pendant la sélection des candidatures et orienter les recruteurs à recruter des personnes que ces relais-là connaissent. Quoi,
oui, il y a beaucoup de processus informels. Ce qui m'a intéressé également dans vos travaux, c'est ce que vous dites sur la question de la répartition des tâches entre les travailleurs français, des travailleurs immigrés, voire des travailleurs sans papier. Vous parlez notamment d'une division raciste du travail. Expliquez-nous ce qu'il en est.
Oui, cette division raciste du travail, je l'ai observée dans certaines exploitations de coco, de pimpoule en Bretagne. En fait, les exploitants, les producteurs de coco mettent en avant certains critères pour organiser la répartition des travailleurs dans différentes zones, quoi, dans les champs. On a les zones centrales et puis les zones périphériques. Ils évoquent souvent le critère de l'expérience. Mais voilà. Mais sauf que ce critère d'expérience masque un critère racial. Donc, qu'est-ce qui me fait dire cela? Par exemple, ce qu'on peut observer dans les zones centrales où les cocos sont plus gros, les zones où les rangs sont garnis de haricots coco, où les possibilités de gains sont élevées. Ce sont souvent des travailleurs d'origine française, des retraités, des jeunes du coin ou bien des migrants intra-européens qui se retrouvent dans ces zones centrales. Des migrants subsahariens se retrouvent à la périphérie des champs. Ils sont confinés sur les périphéries dans des zones où le travail est plus ardu, plus difficile, où les possibilités de gains sont faibles. Finalement, c'est la couleur de la peau qui peut déterminer la catégorie à laquelle appartient un saisonnier. Par exemple, un saisonnier subsaharien qui vient d'être recruté par un exploitant qui ne le connaît pas, en dépit même de son expérience, même s'il met en avant son expérience, ce saisonnier-là peut être confiné sur les marges. Alors qu'un jeune d'origine française qui arrive, qui n'a presque jamais fait le ramassage de coco, peut être mis dans les zones centrales avec les anciens.
Voilà. Il aura des tâches moins fastidieuses.
C'est ce qui me fait dire que finalement, voilà.
Ok. Merci beaucoup Ibrahima Diallo. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche en sociologie à l'Institut sénégalais des recherches agricoles. Vous êtes membre aussi du bureau d'analyse macroéconomique à Dakar. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et merci à Loïse Guérin pour la préparation de cette interview. On termine avec un tableau majeur dans l'histoire de l'art, le portrait de l'artiste au chevalet de Gustave Caillebotte, un autoportrait daté de 1879 et exposé depuis quelques jours au musée d'Orsay grâce à une dation, un don d'un particulier qui lui permet de s'acquitter de ses impôts. Le tableau rappelle la contribution déterminante de Caillebotte pour la reconnaissance de l'impressionnisme. Reportage au musée d'Orsay de Benoît Grossin.
Et comme ça, on met le tableau là au fond.
Paul Perrin, directeur des collections au musée d'Orsay,
c'est bon.
Vient de choisir l'emplacement
non, il est bien, là.
Pour l'accrochage de l'emblématique autoportrait au cinquième étage, en plein cœur de la galerie des impressionnistes.
C'est vraiment un tableau qui a une place à part, qui raconte de l'intérieur l'aventure impressionniste du point de vue d'un peintre qui est aussi un grand collectionneur. Alors évidemment, au premier plan, on voit l'artiste, mais ce qu'on distingue aussi petit à petit, c'est le tableau qui est derrière lui, accroché au mur, inversé, puisque l'artiste se regarde dans le miroir. Et petit à petit, on comprend qu'il s'agit du chef-d'œuvre de Renoir, le bal du Moulin de la Galette. On ne les reconnaît pas tous, mais il y a probablement un Cézanne, un Degas, des Monet, bien sûr, dans cette collection impressionniste à ce moment-là.
Et ce tableau de Caillebotte a une résonance unique, souligne-t-il, avec les collections du musée d'Orsay.
Il nous montre Caillebotte qui va donner sa collection de peintures impressionnistes à l'État. Et là, c'est vraiment magnifique de pouvoir faire entrer cette œuvre qui nous rappelle à quel point les collections nationales, les collections d'Orsay, la France même, doit à Gustave Caillebotte.
Et c'est à quelques mètres de son chef-d'œuvre, les raboteurs de parquet, dans une salle consacrée aux nouvelles acquisitions à l'occasion des 40 ans du musée d'Orsay cette année, que le tableau de Caillebotte, portrait de l'artiste au chevalet, entre en dialogue.
C'est Caillebotte et Caillebotte qui se regardent l'un l'autre.
En face à face, avec un autre des 5 autoportraits qu'il a peint au cours de sa carrière, son dernier, réalisé quelques mois avant sa mort, est tout simplement intitulé « Portrait de l'artiste ».
Benoît Grossin, la météo de ce samedi nuageuse et douce, des averses encore à attendre de la Bretagne à la Lorraine, ciel voilé mais des éclaircies sur la moitié sud, comptez 10 degrés à Chaumont jusqu'à 20 degrés à Perpignan. Ce journal a été préparé par Brice Garcia avec Éric Perrichot-Triboulet à la technique.